Alors, vous savez, nous sommes en train de terminer le chapitre 4 de la lettre aux Éphésiens. Et aujourd'hui, ce sera le dernier message sur ce chapitre, même si on aurait bien sûr beaucoup de choses à voir. L'apôtre Paul nous dit des choses tellement riches dans ce chapitre, des choses tellement pratiques pour notre vie chrétienne. Et ce sont des choses qui concernent le nouveau comportement qui doit caractériser la vie chrétienne. Comportement qui doit être conforme à cette nouvelle nature que le Christ nous a donnée, n'est-ce pas, nous a revêtue. La dernière fois, nous avons vu ce qu'il dit sur la colère. Et la leçon que nous avons retirée de son enseignement, c'est que nous devons mettre nos colères et nos indignations en laisse pour ne pas permettre au diable, n'est-ce pas, de se servir de la colère pour nous amener à faire de choses mauvaises, à nous conduire à l'amertume, à la rancœur, au ressentiment, etc. Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'il dit au verset 28. En s'appuyant sur le 8e commandement de la loi de Moïse, l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas voler, mais plutôt à travailler de manière honnête et à le faire avec un objectif qui, il faut le dire, ne fait pas toujours partie de nos priorités. Voici ce qu'il dit. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il s'agit donc d'une exhortation à passer du vol à l'honnêteté et à la générosité. La première chose qui attire mon attention, sans doute la vôtre, c'est qu'il exhorte des chrétiens à ne pas voler. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Qui les encourage à travailler? C'est très bien, c'est normal, car la paresse peut s'accaparer de tout un chacun, même de nous les chrétiens, n'est-ce pas? Elle peut, comme on le sait, avoir de mauvaises conséquences. La paresse peut avoir de mauvaises conséquences dans la vie de chacun d'entre nous, pour la personne elle-même, pour son conjoint, pour ses enfants, pour son entreprise, pour la société, on pourrait le dire. Le dicton populaire dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. C'est vrai que quand on n'a rien à faire, on cherche quelque chose à faire et souvent on va faire le mal, n'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'il y a d'ailleurs pas mal de versets dans la Bible qui attire notre attention sur les dangers de la paresse. Il y a par exemple ce passage que vous connaissez probablement de Proverbe 6 qui érige la fourmi en exemple. « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? » Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. D'autres versets, surtout dans les proverbes, se moquent du paresseux. Au chapitre 22, nous lisons, le paresseux dit, « Il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues, si je sors, je serai tué. » Et après, il rajoute ceci, la porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Voilà une autre manière de dire, n'est-ce pas, que le paresseux souvent est capable de chercher les prétextes, même les plus ridicules, n'est-ce pas, pour excuser sa paresse. Je ne sais plus quel humoriste disait « L'homme n'est pas fait pour travailler, la preuve c'est que ça fatigue ». Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est que c'est une fatigue, c'est une bonne fatigue, une fatigue nécessaire, une fatigue salutaire. Se reposer le jour pour bien dormir la nuit n'est pas le remède recommandable. Même si certains dans notre société font l'éloge de la paresse, hein, il y a même des livres qui ont été écrits sur ça, l'éloge de la paresse, La Bible honore le travail. La Bible honore le travail. Elle ne lui donne pas toute sa place parce que le travail a sa place dans la vie, mais la Bible parle aussi de nos devoirs familiaux, des loisirs, etc. Mais la Bible donne sa place au travail. Elle dit que le travail est une bénédiction de la part de Dieu, et que la paresse est une attitude contraire à celle que Dieu a voulu pour l'homme. Il y a ce verset d'un Proverbe 12, 27, qui présente le travail comme un trésor de grande valeur. Je lis, « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc, le travail est une véritable bénédiction que Dieu nous accorde, et peut-être que ceux qui ont connu le chômage peuvent le dire mieux que quiconque, n'est-ce pas ? Peuvent le dire, nous avons eu dimanche dernier le témoignage de Benjamin qui est très reconnaissant pour le travail qu'il a pu trouver. Avant même la chute de l'homme, Dieu lui avait donné du travail, car le récit de la création dit que Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden, je cite, « pour le cultiver et le garder », et ce, avant l'entrée du péché dans le monde. Donc Dieu a confié des responsabilités à l'homme, être l'administrateur, le régisseur des ressources de la terre. Le travail n'est pas une conséquence du péché, même si celui-ci l'a rendu souvent pénible, difficile, n'est-ce pas ? Et je sais que beaucoup d'entre nous parfois souffrent au travail, parce que ce n'est pas facile. Mais le travail doit être considéré comme une bénédiction que Dieu a accordée à l'homme pour son bonheur, pour son épanouissement. Parce que c'est très pénible de ne savoir quoi faire, de ne rien faire. Voltaire déclarait que le travail éloigne de nous trois grands maux, l'ennui, le vice et le besoin. Beaucoup dans notre société, un peu partout dans le monde, on le sait, aimeraient pouvoir avoir un travail rémunérateur. Ils ne le trouvent pas. Beaucoup aimeraient pouvoir montrer à la société qu'ils ne sont pas paresseux, qu'ils aiment l'activité, le travail, qu'ils veulent s'en sortir. Hélas, la société ne leur offre pas toujours ce dont ils ont besoin pour le démontrer. Les choses s'aggravent sans doute aujourd'hui, surtout dans ces entreprises qui fonctionnent grâce à des capitaux investis par des actionnaires dont parfois le profit est le seul maître mot, n'est-ce pas ? Le profit à tout prix, même si pour cela il faut parfois sacrifier des gens, des dizaines de personnes dans les entreprises, les mettre au chômage. Nous vivons dans une société où ceux qui ont beaucoup veulent en avoir plus, n'est-ce pas ? Et ceux qui en ont peu veulent avoir davantage. Et comme on n'est jamais content avec ce qu'on a, les uns et les autres se battent pour faire valoir leurs propres intérêts en oubliant souvent ceux des autres, alors que la Bible nous exhorte, nous encourage à considérer les besoins des autres, les besoins du prochain. Et tout cela dans un contexte de compétition internationale de plus en plus agressif, et ça se voit maintenant en temps de crise, n'est-ce pas, où on doit souvent faire ce que le plus fort fait, parce que si on ne le fait pas, on décroche et l'économie s'effondre. Donc, que l'apôtre Paul dise à des chrétiens de travailler n'a rien de choquant. C'est prévu par Dieu, c'est normal, c'est nécessaire, c'est utile pour chacun de nous, pour nos familles, pour le bien-être de la société, de la communauté. Mais qui leur dise de ne pas voler ? Je reviens toujours à la même question. Qui leur dise de ne pas voler ? Alors là, ça paraît quand même un peu gros à passer, n'est-ce pas ? C'est vrai, il peut sembler incroyable que Paul ait besoin de dire à des chrétiens de ne pas voler. Mais quand on sait que ces chrétiens ont vécu des années et des années dans le paganisme, n'est-ce pas, dans une manière de faire totalement contraire à celle de Dieu, c'est effectivement un grand changement qui s'opère dans leur vie, que l'Évangile opère dans leur vie. C'est un changement radical. Il ne faut plus voler, ça appartient au passé. Maintenant, il faut vivre dans l'honnêteté. Je me rappelle d'une dame chrétienne qui s'est associée à une amie chrétienne de la même église pour monter une affaire. Elles s'entendaient à merveille, elles ont décidé de monter une affaire toutes les deux. Donc, elles ont investi leurs sous. Mais cette personne s'est rendue compte au bout de quelque temps que son ami lui avait déjà piqué pas mal de sous. Elle avait vraiment extorqué quelques milliers d'euros. Et finalement, ça s'est très mal terminé. Ça s'est terminé par une relation coupée, n'est-ce pas? Ils étaient fâchés. Et ça s'est terminé même devant le tribunal. Hélas, il faut le dire, cela se passe aussi parfois chez ceux qui se disent chrétiens. Ou alors des chrétiens qui, dans les affaires, sont capables de ne pas honorer leur parole. Ça existe aussi, hélas. Qui préfèrent perdre leur honneur que de subir un petit préjudice. Parce qu'il y a l'appât du gain. Ça existe aussi chez les chrétiens. J'ai vécu dans un pays il y a quelques années où j'ai vraiment eu l'impression que le vol n'était pas considéré comme un péché. Se faire attraper à la main dans le sac, alors là, oui. Donc il ne fallait surtout pas se faire attraper. Mais voler, ça faisait pratiquement partie de la société et même de la vie de certains chrétiens. Et donc, de temps en temps, on entendait les pasteurs le dimanche matin au culte dire aux fidèles, vous allez remettre à sa place ce que vous avez volé cette semaine. Il fallait que les pasteurs, qui ont une certaine autorité en Afrique, leur disent, vous allez remettre à sa place ce que vous avez volé cette semaine. Donc, vous voyez, l'exhortation de Paul n'est pas si déplacée que ça, elle est même tout à fait pertinente. Pertinente surtout qu'aujourd'hui, on sait, il y a plusieurs manières subtiles de voler, n'est-ce pas? Plusieurs manières de voler. On peut profiter de la naïveté ou même de la gentillesse ou de la générosité de quelqu'un pour abuser de cette personne et ne pas honorer une parole donnée, demander plus de ce qu'on avait dit ou lui faire payer un prix non justifié. Je me rappelle de quelqu'un qui se vantait de... Il avait un commerce... Et il se vantait de tromper les gens d'une certaine manière. Par exemple, quelqu'un venait acheter des chaussettes. La personne lui disait, est-ce que vous avez une qualité supérieure? Il allait chercher les chaussettes de qualité inférieure et lui vendait les chaussettes au prix de la qualité supérieure. Bon, c'est de la naïveté, n'est-ce pas? Certaines personnes sont naïves, se laissent tromper, mais il y a des gens qui le font. Aujourd'hui, par exemple, il y a pas mal de vols qui se font par Internet, n'est-ce pas? Lorsqu'on prend sans permission ce qui ne nous appartient pas, de la musique ou des films, on est en train de voler. On est en train de voler. Lorsqu'on prend le bus ou le tramway sans ticket, on vole. Souvent, on voit pas mal de personnes, des contrôleurs, n'est-ce pas, dans les tramways et le bus, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui trichent à ce niveau-là. Lorsqu'on fraude la sécurité sociale ou que l'on fait une fausse déclaration au fisc, on vole l'État. Lorsqu'on travaille, comme on dit, au noir, n'est-ce pas, pour gagner sa vie sans payer les prélèvements obligatoires, des prélèvements qui sont nécessaires à la société pour qu'il y ait un équilibre entre toutes choses. Si on ne le fait pas, on est en train de voler la société, on est en train de voler l'État, de voler ses organismes, car on profite des avantages et des conditions payées par les autres, mais nous, on se soustrait à ces paiements. Lorsqu'en tant qu'employeur, j'exploite mes ouvriers, je vole, car la parole de Dieu dit que l'ouvrier mérite son salaire. Je lisais la semaine dernière une phrase de Thomas d'Aquin, celle-ci, « Quand les riches conservent à leur fin personnelle une surabondance qui serait nécessaire à la subsistance des pauvres, ils volent. » Pour le chrétien, l'activité économique n'est pas au-dessus de la morale. L'activité économique n'est pas au-dessus de la morale. Pour le chrétien, la réussite ne justifie pas d'écraser les autres. Lorsqu'en tant qu'employé, je suis payé pour faire un certain type de travail, travailler un certain nombre d'heures par jour, et que je me soustrais à ces choses-là, je suis en train de voler mon employeur. Et on sait bien que l'exploitation n'est pas toujours du côté de l'employeur, n'est-ce pas? Combien de petites entreprises dans nos pays occidentaux souffrent et sont souvent au risque de la crise à cause de la fainéantise de leurs employés, parce qu'ils ne font pas ce pour quoi ils sont payés. S'il y a quelqu'un qui doit avoir une conscience professionnelle aiguë, n'est-ce pas, c'est bien le chrétien. Parce que la parole de Dieu nous exhorte à être honnête en toutes choses et aussi dans le domaine du travail. S'il y a quelqu'un qui doit accomplir un travail bien fait, un travail fidèle, un travail fait avec soin, sans tromperie, en respectant donc les horaires qui lui sont demandés, c'est bien le chrétien. C'est le chrétien. Certes, ce n'est pas toujours facile d'obéir, n'est-ce pas, de se soumettre aux règles, à la législation qui est imposée, parce qu'on sait bien que ces règles et cette législation n'est pas parfaite, elle est perfectible, elle peut être améliorée. Mais le chrétien ne transige pas avec ces choses-là, car le Seigneur l'appelle à être honnête en tout, à tout mettre en œuvre pour ne pas voler, pour honorer sa parole, pour respecter les règles mises en place, pour être exemplaire dans tous les domaines de la vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit qu'au lieu de nous servir de nos mains pour prendre le fruit du travail des autres, nous devons prendre de la peine et apprendre à travailler de nos mains pour gagner notre vie. Au lieu de nous servir de nos mains pour dérober, nous devons travailler avec nos mains pour faire des choses utiles, profitables, productives, créer de la richesse, gagner de l'argent nécessaire pour notre subsistance, mais être productif, faire quelque chose qui se voit. Voilà donc l'exhortation qui nous vient de la parole de Dieu. Il faut travailler et travailler de manière honnête. Mais ce n'est pas toujours. L'apôtre Paul ajoute une autre raison qui nous échappe souvent, car comme disait tout à l'heure, nous pensons à nous-mêmes, nous avons une mentalité souvent individualiste, égoïste, n'est-ce pas? Mais l'apôtre Paul, notez bien ce qu'il dit, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est normal qu'on travaille pour nos besoins, nous, pour les besoins de notre famille. Mais il rajoute ici quelque chose dont la parole de Dieu nous parle aussi souvent, c'est de penser aux autres, n'est-ce pas, à notre prochain, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est-à-dire pour partager, pour être solidaire à celui qui, pour une raison quelconque, est dans une situation difficile. Et nous savons bien que s'il y a parfois des gens paresseux dans la société, il y a des gens qui aimeraient bien travailler et qui sont dans une situation difficile parce qu'ils ne trouvent pas du travail. Vous savez, toute la Bible nous dit que Dieu se soucie des pauvres, des faibles, de l'orphelin, de la veuve, de l'étranger, n'est-ce pas? Nous avons ça dans l'Ancien Testament, nous avons ça dans le Nouveau Testament. La Bible se fait des soucis pour les plus démunis, les plus faibles. Lorsque Dieu a donné à Israël un pays où coule le lait et le miel, il a ordonné en même temps que le peuple partage la récolte avec le faible, avec le pauvre, avec la veuve, l'orphelin, l'étranger. Il était interdit de tout ramasser afin que ceux qui étaient dans la disette, dans le besoin, puissent venir dans les champs et trouver par-ci et par-là de quoi se nourrir. Les prophètes de l'Ancien Testament ont souvent fait appel à la justice, à la miséricorde, à la générosité entre les humains. Et les évangiles nous présentent Jésus, n'est-ce pas, allant de village en village, nous dit Luc dans les Actes des Apôtres, faisant du bien à tous, faisant du bien à chacun. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, Luc nous dit aussi qu'il n'y avait pas d'indigents parmi les chrétiens, parmi les premiers chrétiens. Et j'espère bien que dans nos églises aujourd'hui, en tout cas dans notre église, nous faisons le nécessaire pour qu'il n'y ait pas de personnes dans la souffrance, dans la disette. L'apôtre Paul exhortait les chrétiens à faire du bien autour d'eux, en commençant par les frères dans la foi, les frères de la communauté, n'est-ce pas? Galates chapitre 6, versets 9 et 10, si vous voulez le lire à la maison. La parole de Dieu nous encourage donc à mettre l'humain, n'est-ce pas, avant toute chose, à une place essentielle. Ce n'est pas l'argent, c'est l'humain d'abord. Elle nous encourage à penser aux besoins des autres, à chercher à les aider, lorsqu'ils passent, surtout ceux qui passent par des moments difficiles. Et l'Évangile a cette force de transformer donc nos égoïsmes en générosité. C'est l'Évangile qui peut le faire. grâce à l'Évangile, au lieu de toujours chercher à obtenir plus, plus et encore plus, l'enfant de Dieu apprend à se contenter de ce qu'il a, de ce qu'il gagne, et en plus à partager avec le plus faible, à partager, à donner à celui qui n'a rien. Au lieu d'être toujours jaloux de ceux qui ont plus, il découvre qu'il y en a qui ont beaucoup moins que lui et qui finalement, il doit faire quelque chose pour aider le plus pauvre, le plus nécessiteux. L'Évangile ne promet pas l'égalité financière pour tous. Dans la Bible aussi, on trouve des riches, on trouve des pauvres. Voilà. La Bible ne promet pas que nous allons tous gagner la même chose et avoir le même niveau économique. L'Évangile ne promet pas que nous aurons tous tout ce que nous convoitons. L'Évangile nous encourage plutôt à cultiver un esprit de service, d'honnêteté, de simplicité, de contentement, de générosité et de partage. L'Évangile nous dit de nous satisfaire de ce que nous avons et de travailler avec nos mains, non pas pour accumuler des richesses sur cette terre qui reste ici, n'est-ce pas ? Des richesses que nous ne pouvons pas amener avec nous, mais accumuler peut-être des richesses pour les partager, pour les donner aux autres, à ceux qui sont dans le besoin. Donc voilà, au lieu de voler, c'est très clair, travaillons, soyons honnêtes, soyons serviables, généreux, partageons, partageons. Au lieu de prendre de façon illégale, donnons de façon libérale et généreuse à ceux qui sont dans le besoin. Voilà le message, voilà le raisonnement qui nous vient de la parole de Dieu. Travaillons et partageons, travaillons et partageons. L'apôtre Paul écrivait ceci aux Thessaloniciens, « Frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. » Voilà pourquoi je trouve que cette exhortation de l'apôtre Paul ce matin est très importante. Que celui qui volait ne vole plus, mais qu'il travaille honnêtement et qu'il partage ce qu'il a avec les autres. Que le Seigneur bénisse sa parole.